RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, les événements climatiques extrêmes se multiplient, la température et le niveau de la mer montent, le rythme des pluies change. Avec plus des deux tiers de son territoire en zone tropicale, le continent africain est l'un des plus vulnérables au changement climatique. C'est un argument qui revient comme un refrain pour les représentants des 54 pays du continent qui ont négocié ici pendant deux semaines à Katowice, dans le sud de la Pologne, durant la COP24, la 24e conférence des Nations Unies sur le climat. Mais ce grand rendez-vous n'est pas qu'un lieu de négociation, c'est aussi le grand salon annuel des experts du climat. Des centaines d'événements parallèles se succèdent pour annoncer des rapports, présenter de nouvelles recherches ou des innovations. Et vous allez l'entendre, l'avenir du continent africain était au cœur des discussions.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Ça chauffe, mais dans quelle proportion et avec quels impacts? C'est l'objet du travail mené par Benjamin Sultan, climatologue à l'IRD, et Ousmane Diaye, météorologue à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal.
L'Afrique de l'Ouest, c'est une région où les scénarios de changement climatique donnent des réchauffements très importants, donc qui varient entre 2 et 5 degrés de réchauffement selon la région, selon le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, dans une région qui est déjà très chaude. Et donc toute élévation supplémentaire de température peut avoir des conséquences très importantes.
Alors 2-5 degrés, ça ne semble pas beaucoup quand on réfléchit juste à l'échelle de degrés, mais en fait c'est colossal dans des pays où on a déjà très chaud.
À la fois pour les gens qui y habitent, mais également pour les ressources naturelles ou pour les ressources agricoles. On a calculé qu'on peut avoir des impacts très importants de ce réchauffement sur les rendements agricoles. Et on est dans des régions où il faudrait que la production augmente pour satisfaire la population. Et pourtant, on arrive à des diminutions de rendement autour de 10 à 20% selon les scénarios de changement climatique.
Alors quand vous dites augmentation des températures, ça peut donner quel niveau de température dans quelle région par exemple?
On peut arriver à des températures moyennes autour de 40 degrés dans le nord de l'Afrique. Aujourd'hui, on est dans certaines régions 30 ou jusqu'à 35 degrés. Donc on peut arriver à des températures très très importantes.
Et ça peut avoir des conséquences évidemment sur les activités économiques. Vous parliez de l'agriculture. C'est le secteur qui risque d'être le plus impacté?
Ça va accélérer les cycles des croissances des cultures. Ça va augmenter le stress thermique. Ça va augmenter aussi le stress hydrique. Et donc la production est menacée, mais les travaux au champ également vont être rendus très très pénibles par cette élévation de température.
Alors quels sont les pays qui vont le plus pâtir et à quelle échéance de ces changements climatiques?
Ce sont les régions les plus continentales qui vont connaître un réchauffement le plus important. Par exemple, les régions continentales du Sahel, le nord du Mali, le nord du Burkina Faso, le nord du Niger, où on va connaître des réchauffements très importants. Après, au niveau précipitation, une augmentation des extrêmes pluviométriques plutôt au centre et à l'est du Sahel et une réduction assez marquée des précipitations à l'ouest, dans la région du Sénégal par exemple.
Et alors, ces changements sont déjà perceptibles et à quelle échéance est-ce qu'on peut... Alors évidemment, ça va dépendre des efforts que l'on fait, hein, c'est pour ça qu'il y a ces réunions comme la COP24, mais à quelle échéance est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter?
En fait, ces changements, ils sont déjà maintenant perceptibles. On les voit dans les observations des 10-15 dernières années. On voit déjà des changements du régime hydrologique, du régime des précipitations. Et on voit que ça s'accélère. C'est d'autant plus fort qu'on a des scénarios d'émissions qui seront importants. Donc, c'est-à-dire, si on fait rien pour réduire les émissions, on va vers des augmentations très très intenses des extrêmes hydrologiques en Afrique. On va vers des baisses très marquées des précipitations au Sénégal. Par contre, ça l'est beaucoup moins si on arrive à réduire les émissions et à limiter le réchauffement autour de 2 degrés.
Bonjour Ousmane Diaye.
Bonjour.
Vous travaillez à l'ANACIM, qui est l'organisme de la météo au Sénégal. Est-ce que vous observez, vous, une évolution due au changement climatique durant les 15 dernières années?
Oui, tout à fait. Quand on regarde les données qu'on mesure tous les jours, on voit bien qu'il y a une augmentation de la température, déjà qu'on ressent, mais surtout les vagues de chaleur. Ça se sent de plus en plus. N'en parlons pas de l'avancée de la mer aujourd'hui qu'on discute à Dakar et récemment à Saint-Louis. Et on voit bien que la mer est en train vraiment d'avancer, de faire des impacts sur les populations, sur la plage, des régions côtières et même sur la salinisation des terres. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de vivre.
Et alors vous, votre travail, c'est d'informer les populations sur la météo. Est-ce que vous ressentez de la part des populations au Sénégal une inquiétude qui monte ?
Oui, notre tâche première, c'est la protection des populations et des biens en donnant l'information climatique, soit l'information passée, soit l'information future, avec des alertes et autres. Aujourd'hui, la variabilité climatique est très forte. Certaines années sont humides, suivies des années sèches, suivies des années humides. Et les gens se posent la question à savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce qu'on peut avoir à l'avance savoir quelle est la saison ? Et ne parlons pas aussi des problèmes d'inondation dans la bidonville et autres. Donc aujourd'hui, vraiment, la demande augmente en matière de ce qu'on appelle nos services climatiques.
Alors justement, l'ANACIM et l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, vous avez ensemble créé un portail, on appelle ça un portail multisectoriel sur les impacts du changement climatique pour aider justement à la décision au Sénégal. Benjamin Sultan, en quelques mots, on est à la radio, on ne peut pas voir les schémas, mais en quoi consiste ce portail ?
L'idée, c'est que les chercheurs ne peuvent pas s'arrêter à produire des simulations et à faire des diagnostics dans des publications scientifiques. Mais il faut également qu'ils puissent disséminer cette information, qu'elle puisse être utilisée par les décideurs, par les organismes étatiques, par les acteurs de l'agriculture, pour qu'ils puissent s'adapter à ces scénarios climatiques. Et donc, pour cela, on s'est basé sur le Sénégal, donc qui est une des régions qui est très, très vulnérable au changement climatique, donc avec à la fois l'augmentation des températures, mais également des projections de baisse de pluie. Et donc, chacun peut regarder l'évolution des températures, des précipitations, des rendements des cultures entre 1950 et 2100.
Et on voit aussi l'évolution des rendements agricoles, l'évolution des températures, l'évolution des pluies. C'est assez anxiogène, finalement.
Ouais, tout à fait. Bah, l'idée, c'est de sensibiliser à l'atténuation du réchauffement climatique. C'est de montrer qu'il y a des vraies différences entre des scénarios avec faibles émissions et fortes émissions. Et donc, ça a vraiment des conséquences sur l'évolution des températures, sur les précipitations, sur les rendements des cultures. Donc, c'est anxiogène, oui, mais c'est un message qui est très, très important.
Parce que vous avez fait donc des projections par culture. Sur quel type de culture avez-vous travaillé ?
On a travaillé sur les projections de maïs, de mil et de sorgho, qui sont les principales cultures au Sénégal. Et donc l'idée, c'est de voir aussi quelles sont les conséquences du changement climatique sur ces cultures. Est-ce que le maïs va être plus affecté que le sorgho, que le mil ? Donc ça peut aider à l'adaptation. On pense que c'est une information qui est importante et qu'il faut que les organismes qui font de la planification agricole l'aient à disposition très très facilement.
Oui, parce que Ousmane Diaye, l'idée, c'est que ces informations aillent plutôt au cadre, à ceux qui peuvent former les populations et faire redescendre le message, parce que les populations, elles voient leur environnement changer avec des indicateurs qui leur sont propres, qui leur sont traditionnels. Et il faut essayer de faire conjuguer finalement ces savoirs empiriques traditionnels avec ce que dit la science.
Ces populations-là ne sont pas restées seulement les bras croisés, ils ont essayé de s'adapter, de comprendre en fait ce qui les arrive. Et ils ont pu développer des stratégies. Adaptation ou mal-adaptation en tout cas, ils ont certaines stratégies qu'on appelle les connaissances traditionnelles, les connaissances endogènes, héritées un peu de père en fils, n'est-ce pas ? Ils ont essayé de voir comment vivre avec le changement climatique, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et s'expliquer pourquoi la température, pourquoi cette saison pluvieuse était sèche, pourquoi l'autre était humide, essayer de corréler ça un peu avec leur vécu. Qu'est-ce qu'on a vu de spécial cette année ? Et on a vu aussi que la saison était sèche. Bon, peut-être il y a quelque chose qu'on a vu en début d'année et peut-être ça peut expliquer. Et ça arrive deux ou trois fois, ça devient une connaissance scientifique à leur niveau et qu'ils essaient de développer. Maintenant, nous, on sait qu'aujourd'hui, ce qui leur arrive n'est pas une fatalité. Il y a un changement climatique qui est là, qui est en train de se produire. Maintenant, comment prendre toutes ces connaissances-là qu'on a et les modèles qui nous donnent une idée, quels sont les scénarios les plus vraisemblables, comment communiquer ça, comment concilier cette connaissance scientifique à cette connaissance endogène. Et on travaille avec les services étatiques. Et aujourd'hui, cette étude-là nous permettra en tout cas de mieux expliquer cela et ensuite de donner les décideurs un outil qui leur permet de faciliter leurs décisions.
Mais ce qui est assez frappant, c'est que vous nous décrivez quand même des situations extrêmement complexes pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest en général pour les dizaines d'années à venir. Et avec un sentiment d'urgence qui est complètement absent des négociations qui sont entre les mains des personnes qui sont autour de nous ici à la COP24. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce décalage, Ousmane Diaye ?
Oui, il y a un décalage. Ils ne comprennent pas la réalité sur le terrain qu'on est en train de voir. Si vous voyez que le climat au Sénégal, bon, avec tous les secteurs socio-économiques, tout tourne autour du climat. Donc vraiment, quand il y a des inondations, ça impacte les populations. Ça peut même l'éducation des fois, parce que les gens sont logés dans les écoles. Et des fois, l'école n'a pas démarré parce que les classes sont occupées par des personnes, etc. etc. Donc c'est ce qu'il faut essayer d'expliquer aujourd'hui. Dans des conférences pareilles, on essaie de porter ces voix-là, de 100 voix qui n'ont pas accès à ces conférences, expliquer ce qu'ils vivent, montrer des réalités et un environnement qui est très difficile. L'augmentation de la population est très forte, il y a un problème démographique, il y a un problème aussi de ressources, n'est-ce pas? Les pays-là sont pauvres, n'ont pas les moyens de s'adapter très vite. Certains pays ne peuvent pas comprendre ça. Quand il y a certains pays sont frappés par certains phénomènes, il y a l'aide d'urgence qui se crée automatiquement. Nous, il faudrait demander l'aide, attendre l'aide que ça vienne, avec tous les problèmes que ça se pose. Et je pense que l'aide, ce n'est pas seulement financier, il y a aussi le transfert technologique qui est très important aujourd'hui, qui est l'un des négociations. On essaie de dire aux gens qu'on n'a pas accès à ces technologies-là et c'est vous qui l'avez entre vos mains. Il faut que vous facilitiez l'accès à ces technologies-là. Il faut que les gens comprennent aussi cette charge très lourde qu'on a, le fait que les gens ne sont pas tellement éduqués, la communication n'est pas tellement facile, etc. La sensibilisation, il faut de nous aider par rapport à ça. Et je pense que les gens sont un peu ouverts à ça, mais je pense qu'on va y arriver un jour.
Et cela va être nécessaire car dans certains endroits, c'est déjà compliqué. Nous allons retourner au Sénégal, que les autres pays ne se vexent pas. Surtout que les travaux menés par Ibrahim Assi, chercheur en géographie de la santé à l'université de Dakar, sont en cours aussi au Burkina Faso. Et ces conclusions sont valables pour l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. En résumé, les vagues de chaleur qui sont de plus en plus nombreuses ont un impact sanitaire important, mais il y a des options pour s'adapter.
On a fait des études en 2013, 2014 et 2015 dans le cadre d'un projet qu'on appelle ACASIS, alerte aux canicules au Sahel et risque sur la santé. On a collaboré avec l'IRD. Donc, ces études ont couvert les départements nord du Sénégal où on a au moins une population de 2 millions d'habitants. C'était de pouvoir documenter un épisode d'excès de mortalité où on a eu 27 cas qui ont été associés à une température qui a excédé 47 degrés. Donc ce qu'on voulait explorer, c'est de voir est-ce que c'est une mortalité normale, quelle que soit la saison, ou bien si l'augmentation de la température a entraîné plus de morts que d'habitude. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'excès de mortalité en 2013 est vraiment imputable à l'augmentation de la température au niveau de cette zone-là.
Et alors, lors de vos enquêtes, vous êtes rendu compte qu'il y avait donc un lien entre ces décès et les vagues de chaleur, et plus globalement, qu'il y avait une augmentation des pathologies dans la région suite à ces vagues de chaleur. Alors, quelles étaient les personnes qui étaient malades et à quelles conclusions êtes-vous arrivé?
En fait, par rapport à nos résultats, on a vu qu'il y avait des groupes vulnérables. Ce sont les personnes qui ont des antécédents sanitaires, comme l'hypertension, les maladies cardiaques, l'hyperthermie ou bien qui avait l'asthme ou le diabète qui était beaucoup plus affecté par cette maladie et qui avait subi beaucoup plus de mortalité.
En fait, les vagues de chaleur impactent les personnes qui ont ces maladies-là.
Voilà, ils impactent vraiment les gens qui ont des précédents sanitaires.
Alors du coup, c'est inquiétant pour l'avenir?
C'est inquiétant parce que les maladies chroniques aussi augmentent au sein de la population. Ça veut dire que les deux augmentent. Il y a une rencontre entre deux phénomènes qui sont favorables, surtout à une surmortalité au niveau de cette zone-là.
Alors du coup, l'objectif de vos recherches, j'imagine que c'est d'anticiper, de faire des politiques de prévention.
Je pense que le projet ACASIS était conçu dans le sens de mieux exploiter l'expérience en France. Parce qu'en France, il y avait eu la canicule de 2003. Donc je pense que les autorités ont tiré des leçons. Les météos ont mis en place des systèmes d'alerte sous forme de bulletins. Donc nous, cette expérience en France nous inspire aussi. Au Sénégal, on commence à avoir des problèmes de santé liés aux vagues de chaleur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on essaie d'anticiper en développant ce qu'on appelle les services climatiques. Développer un bulletin qui va parler des anomalies de température et que ces anomalies de température puissent être distribuées à travers un réseau, c'est les personnels de santé, pour que ça puisse accroître la surveillance épidémiologique ou bien la surveillance sanitaire en ce qui concerne les maladies qui peuvent être fortement influencées par les vagues de chaleur, quoi. Il faut aussi qu'on essaie d'alerter les populations sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un mode d'habitat qui n'est pas très, très adapté. Peut-être qu'il va falloir développer le reboisement parce qu'on a besoin d'avoir un couvert végétal des zones, des lieux où les gens peuvent se reposer en période de canicule, être à l'ombre des arbres.
Et sur l'habitat, quelles sont vos préconisations?
En tout cas, je dirais qu'il y a une initiative aujourd'hui qui est en train d'être menée sur la voûte nibienne. Et on a constaté même lors des études que les populations qui habitaient dans les bancos ou les voûtes nubiennes étaient moins exposées aux effets de la vague de chaleur. Donc l'une des recommandations, c'est vraiment que l'État essaie d'accompagner les populations, la société civile et les organismes d'aide pour que ces populations reviennent vraiment à un habitat du type de la voûte nubienne.
Donc arrêter le béton et revenir à la terre.
Tant qu'on peut, moi c'est ce que je préconise. Il y aura toujours des gens qui vont continuer le béton parce que c'est un indicateur d'aisance.
La voûte nubienne, rapidement, on peut expliquer ce que c'est ?
En fait, la voûte nubienne, c'est des matériaux de construction au niveau local qui sont faits à base de banco, dont les briques ont une très grande épaisseur. Ça joue comme un rôle de filtre.
Tiens, il fait chaud dehors, mais il fait frais dedans. D'ailleurs, vous avez une maison en voûte nubienne, vous l'avez testée.
Voilà, moi j'habite dans le nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Donc à la maison, nous avons une voûte nubienne. Je dis que c'est extrêmement agréable à chaque fois que je suis là-bas. C'est comme si je suis dans mon bureau à l'Université de Dakar sous la clim. Nous, les scientifiques, les cadres qui sont dans ces zones-là, qu'on essaie d'investir dans la voûte nubienne pour montrer vraiment le chemin aux populations. Parce qu'on ne peut pas demander aux populations de changer si nous, on ne veut pas aussi prendre ces éléments de changement.
Et en plus, ça ne consomme pas d'énergie.
Ça ne consomme pas d'énergie et ça coûte moins cher. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour la santé et c'est bon pour l'énergie.
La COP24 s'est ouverte en musique grâce à la chanteuse allemande Bernadette Lahengst qui a travaillé avec des enfants allemands et polonais pour les sensibiliser au problème de la pollution de l'air. Nous n'allions pas vous faire manquer ça.
I cannot breathe today. My world is on fire. Since you took your life away, the sky is gray and full of desire. I need air,
air
to breathe,
to breathe
everywhere,
where
for you and me.
C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à Katowice, dans le sud de la Pologne, à l'occasion de la 24e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP24, qui touche à sa fin. Avec la crise des gilets jaunes en France et le choix de la présidence polonaise de cette conférence de mettre la notion de transition juste au cœur des débats, le fait que la transformation écologique de l'économie mondiale ne se fera pas sur le dos des plus précaires a été largement débattu ici. Mais qu'est-ce que ce concept signifie du point de vue africain ? C'est la question que nous avons posée à Rhoda Boateng. Elle est coordinatrice du programme sur les changements climatiques pour l'Afrique à la Confédération internationale des syndicats.
Avant de commencer, j'aimerais donner un peu de contexte pour donner un peu de base. Ce qu'il s'agit, la transition juste pour nous, les travailleurs en particulier. Alors, comme nous savons, l'Afrique est un continent sous-développé où la plupart des pays font partie des pays moins avancés. Mais ces dernières années, il y a un taux de croissance économique avec un moyen de 4%. Pour le continent en général, quand même, malgré tout, il y a une vision ou bien un besoin pour l'industrialisation sur le continent entier. Alors, ça pose un dilemme quand on parle de la transition des énergies fossiles, surtout parce que la plupart des pays d'Afrique sont les revenus basés sur les fossiles. Alors, la notion de transition et de transformation d'économie est tellement sensible pour les pays africains. Mais on voit que la notion, bien le concept de transition juste donne une opportunité de faire la transition sous une forme très durable. Alors, comment on peut transformer, mais dans, ou bien sous un moyen très durable, comme on dit en anglais, sustainable development.
Baba Karsila, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes en charge des questions environnementales et climatiques au sein de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est pour vous la transition juste au Sénégal? Comment vous percevez ce concept?
Merci beaucoup Anne. Le Sénégal s'est engagé à la veille de l'accord de Paris à contribuer avec sa contribution prévue déterminée au niveau national. Avec ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il est clair que c'est d'abord et avant tout notre modèle de production qui doit être repensé, et modèle au cœur duquel se trouvent les travailleurs.
Alors justement, quels sont les secteurs qui vont être le plus impactés au Sénégal par ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre? Et aujourd'hui, quel travail faites-vous, quel accompagnement faites-vous auprès des travailleurs?
De toute évidence, les secteurs qui seront les plus durement affectés sont l'énergie, le secteur du bâtiment, l'agriculture, la foresterie, entre autres. Notre mission à nous autres syndicats, c'est de se dire que d'accord, il y aura certes des pertes d'emplois, mais ça peut ne pas être vu comme étant une catastrophe. Ça peut être également une opportunité. Si nous prenons par exemple le secteur de l'agriculture, où nous aurons à transiter vers la durabilité, disons que des emplois verts pourront être créés, et notre mission fondamentale en tant que syndicat, c'est d'accompagner ces travailleurs agricoles vers un travail décent, avec la protection sociale bien assurée.
Mansour Cherny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge des questions climatiques et de l'environnement à l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie. Comment est-ce que cette notion de transition juste résonne en Tunisie?
Si on regarde l'indice tunisien, on a une facture énergétique qui nous coûte énormément cher parce qu'on n'est pas un pays producteur de pétrole.
Alors l'indice, c'est donc en effet la contribution du pays et comment le pays se projette dans les prochaines années pour lutter contre les changements climatiques.
Nous avons une date ultime, c'est 2030, on doit arriver à 30% d'énergie renouvelable. Nous sommes à peu près maintenant à 4%. Je vais vous donner un exemple palpable. 2015, on doit fermer une centrale classique qui fait travailler à peu près 100 ouvriers, techniciens et ingénieurs. On est devant deux solutions. Les mettre tous à la porte ou bien il faut convertir ces gens-là par la formation pour qu'ils puissent s'introduire dans l'énergie renouvelable. C'est ce que nous avons fait et nous avons sauvé à peu près 85 postes d'emploi. Ça, pour nous, c'est un pari gagné. La transition ne doit pas se faire ou dépend des travailleurs et brusquement. Donc elle doit se faire par le dialogue entre employeurs, employés et le gouvernement. Nous avons notre part de baisser et de passer à une économie bas carbone, tout en gardant les travailleurs dans leur poste d'emploi, un travail décent. Qu'est-ce qu'il faut faire entre garder le rythme de développement et en même temps ne pas perdre des postes d'emploi? C'est ce que nous avons réussi à obtenir, c'est le dialogue. Seulement, nous remarquons que le système financier au niveau mondial ne suit pas.
Le rôle de l'agriculture, qui est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre mondial, a aussi été longuement discuté durant la COP24. Depuis l'accord de Paris en 2015, ce secteur, dont dépend l'essentiel de la population africaine, fait aussi partie des solutions, car il est possible de stocker le carbone de l'atmosphère dans les sols. C'est le principe de l'initiative 4 pour 1000 que nous explique Jean-Luc Schott, qui est chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
Le principe est assez simple. Lorsqu'on regarde où sont les réservoirs de carbone à l'échelle de la planète, on s'aperçoit que le sol, dans les écosystèmes terrestres, est le réservoir le plus abondant. Et donc, il est possible, en mettant des plantes qui vont photosynthétiser, à savoir transformer le carbone de l'atmosphère en matière organique, et que cette matière organique, des feuilles, des branches, des racines, une fois tombée au sol, va augmenter le stock de carbone dans ces sols.
Alors pourquoi 4 pour 1000 ?
4 pour 1000 ou 0,4% montre qu'il suffirait d'augmenter de 0,4%, soit 4 pour 1000, le stock de carbone dans les sols pour annuler l'augmentation annuelle des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète.
Alors aujourd'hui, il y a 300 partenaires d'une quarantaine de pays qui ont rejoint cette initiative, dont 4 pays africains, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Alors en quoi consiste cette initiative ?
L'initiative s'appuie sur deux piliers. Un volet qui va développer des actions de terrain pour mettre en œuvre des pratiques et aider les agriculteurs à transformer leur système de production vers des systèmes qui vont tendre vers l'initiative 4 pour 1000, augmenter les stocks de carbone dans les sols. Et l'autre volet est le volet recherche, dont l'ambition est de fédérer la communauté internationale, dans lequel la communauté française et l'IRD jouent un rôle important, pour apporter de nouvelles connaissances pour aider cette transition des systèmes de production vers plus de carbone stocké dans les sols.
Alors pour que l'on comprenne bien, comment est-ce que l'on stocke plus de carbone dans les sols ? Ça passe par quel type de pratique ?
On stocke plus de carbone dans les sols en produisant plus de biomasse, des feuilles, des racines, des troncs, des résidus de culture, en associant l'agriculture et l'élevage. Les animaux utilisent une partie des résidus de récolte et le transforment en fumier. On fait du compost et on apporte cette matière organique dans les sols. Et donc c'est vraiment produire plus de biomasse, quelles que soient les modalités de production de cette biomasse.
Alors comment ça s'adapte par exemple aux pays africains ?
Effectivement, les agriculteurs dans les pays du Sahel utilisent les parcs agroforestiers à Federbia. Federbia est un arbre qui fixe l'azote atmosphérique de l'air, donc il enrichit le sol en azote. Et par ailleurs, en saison des pluies, il a perdu ses feuilles. À la fin de la saison sèche, la matière organique du sol est enrichie. Et l'agriculteur qui fait une culture de maïs ou de sorgho en saison des pluies, la culture bénéficie de cette matière organique et n'est pas en compétition avec la lumière puisque l'arbre, le Federbia, n'a plus de feuilles.
Donc l'agroforesterie, il faut la développer massivement.
Oui, il faut adapter les systèmes agroforestiers au contexte particulier, qu'il soit climatique et ou aux situations des agriculteurs. Mais effectivement, c'est une piste sur laquelle la recherche travaille. Comment est-ce qu'on peut augmenter l'impact de l'agroforesterie pour tendre vers le 4 pour 1000 ?
Il y a aussi le fait de cumuler élevage et agriculture, c'est très important.
Dans beaucoup de pays d'Afrique du Sahel, mais aussi dans d'autres pays, effectivement, les agriculteurs et les villages se sont organisés pour que les animaux qui sont en pâture dans la journée sont parqués la nuit. Ils excrètent leurs fesses, ils fertilisent une parcelle et la nuit suivante, une autre parcelle. Et donc, il y a un système tournant et les agriculteurs font sur ces parcelles des cultures annuelles. Donc, l'association agriculture-élevage est effectivement un autre moyen d'augmenter la quantité de carbone dans les sols. Et il y a aussi la nécessité d'aller plus loin que les connaissances d'aujourd'hui. La recherche doit apporter aussi de nouvelles solutions.
Par exemple ?
Aujourd'hui, la sélection variétale a principalement axé sur la production de grains de blé ou de grains de sorgho. C'était nécessaire. Mais on peut s'interroger sur la nécessité aujourd'hui d'avoir une sélection qui, tout en maintenant la production alimentaire à un haut niveau, puisse aussi produire des biomasses plus importantes, notamment des racines plus profondes qui vont stocker du carbone dans les horizons de profondeur, mais aussi avoir accès à des réserves en eau en période de sécheresse.
On parlait des pratiques agricoles en Afrique subsaharienne, mais qui émettent finalement très peu de carbone. Celles qui en émettent beaucoup sont massivement les agricultures dans les pays industrialisés, où là, ça fait bien longtemps qu'on ne met plus des arbres dans les champs. On a déforesté massivement, on utilise beaucoup d'engrais, on laboure énormément la terre, on relâche donc énormément de carbone dans l'atmosphère. On parle de transition juste. Là, il va falloir accompagner les agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques.
Et il faut effectivement accompagner les agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques. En revanche, il y a un changement de paradigme énorme entre la révolution verte ou doublement verte et maintenant l'agroécologie, à savoir mettre en œuvre des pratiques et des techniques basées sur des connaissances du fonctionnement écologique des systèmes sol-plante ou du sol pour pouvoir augmenter la productivité primaire tout en évitant une empreinte, j'allais dire environnementale, trop importante, relarguer des gaz à effet de serre par des pratiques adaptées. Et donc l'agroécologie est un domaine dans lequel la recherche est fortement impliquée, et notamment l'IRD avec ses partenaires au sud.
Mais alors, cela veut dire aussi que ça va permettre de lutter contre la dégradation des sols, parce qu'on les a massivement dégradés avec des pratiques agricoles justement pleines d'engrais chimiques qui ont détruit cette biodiversité dans les sols. Et puis, il y a aussi la désertification qui fait que les sols se dégradent. C'est 40%, je crois, des terres émergées aujourd'hui qui sont dégradées à l'échelle de la planète.
Oui, 40% des terres sont dégradées à l'échelle de la planète, principalement dû à une surexploitation ou à une exploitation minière des sols. Et donc effectivement, lorsqu'on tend vers du 4 pour 1000, lorsqu'on va mettre en place des pratiques qui vont éviter que le stock de carbone dans les sols diminue, on est bien à l'interface entre des enjeux climatiques, des enjeux de sécurité alimentaire et des enjeux de lutte contre la dégradation des terres. Quels que soient les pays affectés de la Convention, mais aussi les pays européens ou les pays en Asie ou en Amérique latine.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Que ce soit pour l'agriculture, le développement des énergies renouvelables ou les infrastructures urbaines, les pays africains ont besoin de financement et de transfert de technologies, d'autant que leur croissance est déjà impactée par les changements climatiques. Comme nous l'explique Sénine Nafo, il est ambassadeur climat du Mali et porte-parole pour le groupe africain.
Déjà, malheureusement, une étude de la Banque africaine de développement nous apprenait qu'on peut déjà compter entre 1 à 3% de pertes sur la croissance économique. Donc il y a aujourd'hui un risque que le dérèglement climatique impacte donc les trajectoires de développement et les gains de développement.
Alors, quelle réponse cette conférence de Katowice apporte aux pays africains ? Vous travaillez depuis 9 ans dans ces négociations. Il y a une déconnexion, on a l'impression, totale entre les discours sans fin, les négociations et la réalité concrète des populations, notamment sur le continent africain.
C'est légitime qu'il y ait une certaine frustration, parce que d'un côté, nul ne remet en cause les impacts du dérèglement climatique. Ces 10 dernières années, les impacts ont été de plus en plus forts. Et d'un côté, on sent bien que la réaction de la communauté internationale est ce qu'elle est. Il y a même une marche en arrière. Mais pour revenir à ces négociations, les négociations se déroulent en cycle. Donc on a eu un cycle de Durban jusqu'à Paris. C'était important d'avoir un accord.
Alors ça, c'est formidable cet accord, mais depuis, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté à l'échelle mondiale.
Bien sûr, ça c'est les vicissitudes du processus multilatéral. Quand je disais qu'il y avait plusieurs espaces de négociation, l'Afrique l'avait anticipé déjà en 2014. C'est-à-dire qu'au niveau du groupe africain, nous étions bien rendus compte que les décisions à la COP ne suffisaient pas et qu'il fallait proposer des nouveaux type de collaboration, de partenariat et avoir une vraie diplomatie du climat. Donc des initiatives déjà en 2015 à Paris, deux initiatives spécifiques ont été lancées par les chefs d'État africains. Une sur les énergies renouvelables pour accélérer le déploiement du potentiel des énergies renouvelables en Afrique et une initiative sur l'adaptation. Donc en 2015 et 2016, nous avons maintenant 6 initiatives au niveau de l'Union africaine. 3 thèmes, adaptation, énergie, agriculture, 3 régions, Sahel, bassin du Congo et État insulaire. Aujourd'hui, nous allons plus loin et nous sommes en train de mettre en place un groupe sur la mobilisation, non seulement la mobilisation des ressources, mais l'ingénierie même des projets.
Alors justement, l'Afrique a besoin de transferts de technologies. L'Afrique a besoin de financement pour créer son économie décarbonée. Or, toutes les promesses sont aujourd'hui un peu à l'arrêt. C'est-à-dire que le Fonds vert qui a été donc créé en 2009 avec ce fameux mirage, j'ai envie de dire, des 100 milliards de dollars mobilisables chaque année à partir de 2020. Aujourd'hui, on est quoi, à peine 10 milliards ?
L'engagement qui a été pris de mobilisation sur les 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020 n'était pas forcément lié au Fonds vert. D'ailleurs, si vous retournez à la décision de Cancun en 2010, ce qui est inscrit, c'est qu'une majorité des financements multilatéraux pour l'adaptation passent par le Fonds vert. Donc, dès le départ, nous n'avions pas comme aspiration que les 100 milliards par an puissent passer par le Fonds vert. Mais certainement, 10 milliards, c'est un début. Actuellement, en négociation, nous avons une reconstitution de ces 10 milliards pour l'année prochaine.
Oui, parce que les États-Unis ont retiré leur
Exactement. Billet. Et pour nous, nous tablons sur au moins le minimum, 50% de hausse. Nous espérons que sur les, au minimum les 10 milliards de dollars qui vont permettre de reconstituer le fonds, qu'un tiers aille à l'Afrique.
Et la Banque mondiale a annoncé ici à Katowice qu'elle allait mobiliser 200 milliards de dollars entre 2021 et 2025. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que l'Afrique aura sa part du gâteau ?
C'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Premièrement, la banque avait déjà pris un engagement à Paris en 2015 de doubler ses financements pour le climat d'ici 2020. Elle a atteint la cible, donc ils étaient à peu près à 10 milliards de dollars, ils sont aujourd'hui à 20. Donc de 20, les 200, ce serait doublé encore, on serait à peu près à 40 milliards de dollars par an à partir de 2020. Je pense que sur les 200 milliards, à peu près 10 milliards par an pour l'adaptation. On aurait préféré une cible plus importante.
Alors après, ces transferts de technologies, ces financements, il faut qu'ils arrivent jusqu'aux villes, jusqu'aux endroits où on a besoin d'argent. Vous êtes aussi mobilisé sur ces enjeux des villes et notamment des villes moyennes. C'est un vrai problème, ça, que l'argent passe uniquement par le national et du mal à arriver au plus près des populations.
C'est un vrai enjeu pour une raison très simple, parce que les impacts se ressentent au niveau local. La question de l'accès à la finance climat pour les collectivités est une question qui est centrale. Au niveau africain, l'Union des villes et des collectivités du continent vient juste de mettre en place un groupe d'experts sur la finance climat qui va réfléchir à la mobilisation des ressources, au renforcement de capacités au niveau des villes et des collectivités. Nous sommes en train de travailler sur un programme de renforcement de capacités des villes. Nous sommes d'ailleurs soutenus par la Banque africaine de développement. Et le Fonds vert, nous espérons d'ailleurs, dès l'année prochaine, avoir quelques pilotes déjà dans des grandes villes en Afrique.
Alors là, nous parlons de finances, de milliards de dollars. Je m'adresse à l'ancien trader qui sommeille en vous. De nombreux économistes de par le monde annoncent une énorme crise financière, peut-être pour l'année 2019. Oui. Ça, ce serait une catastrophe pour la finance climat et le financement des projets dont nous parlons.
Oui et non. Une crise est toujours source d'opportunités. Nous avons toujours cru que le système financier et monétaire actuel était vicié dès le départ parce que les liquidités qui sont mises sur le marché par les banques centrales, pour beaucoup, ne se retrouvent pas dans l'économie réelle. Ça se trouve dans des produits dérivés. C'est vrai, par le passé, était un peu... Bon, bref. Et donc, il y a une chance que le système monétaire financier regarde l'économie réelle et les investissements nécessaires pour accélérer, si on veut, la transition ou la transformation de l'économie mondiale. Je pense que c'est rentable sur tous les points. C'est rentable en termes économiques et financiers. C'est rentable pour la paix et la stabilité. Je pense que c'est une occasion assez extraordinaire.
Donc vivement la crise financière.
Enfin, si elle doit avoir lieu, elle aura lieu. Mais que cette fois-ci, s'il y a une injection massive de liquidités dans le système, qu'on se dise quels sont les secteurs à prioriser et qu'on dise aux banques centrales prioriser les investissements ou qu'il y a une prime pour les investissements dans les secteurs de la transition mondiale.
Merci beaucoup.
Merci bien.
On peut se demander si ces grandes conférences annuelles sur le climat sont finalement bien utiles, car malgré l'accord de Paris, ratifié par 195 pays, les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques sont reparties à la hausse en 2017 et en 2018. Un fait que Laurence Toubiana, la directrice de la Fondation européenne pour le climat, ne conteste pas, tout en rappelant que ces conférences sont malgré tout un cadre nécessaire.
Alors, elles sont reparties de la hausse dans les grands pays émergents. On peut comprendre la croissance économique qui est relancée, la population qui augmente. Mais aussi, elles sont reparties de la hausse en Europe, ce qui est moins évident. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui une reprise de conscience forte. Hein. On a cru, parce qu'il y avait un plateau sur les émissions, qu'on a constaté autour de l'année 2014-2015, qu'au fond, on allait assez naturellement vers une baisse graduelle. Et on se rend compte que ce n'est pas vrai et que tout ça est encore terriblement corrélé. Les subventions aux énergies fossiles qui continuent, encore un pipeline de centrales à charbon un peu partout dans le monde, même si c'est beaucoup ralenti, il est quand même très important. Donc il y a ces signaux contradictoires et qui, de toute façon, dans le résultat, est l'augmentation des émissions.
Oui, c'est vrai que les engagements des pays ne sont pas plus rassurants, hein, puisque selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, il y a seulement un tiers de l'effort qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement à 2 degrés qui est sur la table.
Voilà, décembre 2015, lorsque les pays, avant de conclure l'accord de Paris, disent leur premier essai, ça c'est 3 degrés. Évidemment, l'accord de Paris, ça s'applique en 2020, mais on ne voit pas forcément exactement les pays mettre en place ce qu'il faut pour arriver déjà aux contributions nationales. Donc, cette période entre maintenant et 2020 ou 2021, si on introduit avec ça l'idée des élections américaines, quand on espère qu'il y aura une orientation différente, hein, après, c'est un moment de remobilisation politique au sens vraiment large, parce que c'est pas que les gouvernements, c'est aussi des entreprises qui sont sérieuses, qui ne font pas juste du greenwashing. Donc quelque chose qui mord dans l'économie réelle, puisqu'on a besoin vraiment d'enclencher le mouvement d'accélération maintenant.
Mais en même temps, vous dites là, on a 2 années cruciales, et c'est vrai que le GIEC dit on a 2 ans pour agir, puisque normalement les émissions dans un monde idéal devraient commencer à diminuer à partir de 2020. Mais cette COP24, là, cette conférence en Pologne, n'a pas mobilisé les foules. Il y a eu très peu de chefs d'État et de gouvernement. Pourquoi ? Il y a une espèce de vide politique sur le sujet ?
Bon, d'abord, le contexte politique n'est pas favorable. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Et puis on voit, il y a de nouveau les climato-sceptiques qui reprennent un peu du poil de la bête. Mais et en même temps, ces deux ans doivent servir à la remobilisation politique. Alors pourquoi c'est pas à la COP ici que ça se passe ? C'est une COP horriblement technique. C'est pour les geeks du climat qui s'intéressent aux détails de comment on fait un inventaire, comment on compte une tonne de carbone. Bon, je ne vois pas des chefs d'État mettre leurs doigts là-dedans.
Oui, parce qu'ici, l'enjeu, c'était de définir les règles pour mettre en place l'accord de Paris.
Exactement.
Donc, on met en place des règles pour mettre des règles qui vont après servir à...
Voilà, c'est des règles pour compter, pour communiquer. C'est vraiment quelque chose entre des juristes et des techniciens. Donc, il ne faut pas se tromper de film. Et je dirais en même temps, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que, à la fois, c'est une COP technique, dans un monde où le recueil de données, la vérification devient quelque chose d'extrêmement facile. Comme vous le savez, maintenant, l'observation spatiale permet de mesurer les émissions de carbone, maintenant de méthane, partout. Donc les pays, bon, ils vont faire leurs rapports, mais il y aura les rapports de ces agences, les ONG qui consulteront ces satellites. Donc on est dans un monde où les données vont être quelque chose de la plus banale possible. C'est bien que les gouvernements décident un minimum de cadre, mais après, faut oublier, puis il faut continuer.
Mais du coup, ça pose la question quand même de l'utilité de ces conférences. Alors c'est une question que l'on pose de façon un peu récurrente, mais il y a quand même 22 000 personnes qui sont venues ici pendant 15 jours en Pologne. Vous dites pour une COP très technique. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire un round comme ça tous les ans ?
J'ai beaucoup changé d'avis sur cette question. Est-ce qu'au fond, il ne fallait pas se retrouver tous les 2 ans ? En fait, maintenant, je pense que non. Il faut se retrouver tous les ans parce que c'est le moment où, justement, on organise la pression. Bon, la négociation, c'est peut-être 1 000 personnes ou peut-être moins. Hein. Donc, les 22 000, ils font autre chose. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est bien. Ils partagent leurs idées, ils montrent ce qu'ils font, ils s'engagent, ils montrent les technologies. Et donc, je pense finalement que c'est très utile d'avoir ce moment important de focalisation. Et puis, vous voyez, il y a quand même beaucoup de journalistes. On reparle du climat à ce moment-là, alors que parfois, ce n'est pas facile.
Vous dites 1 000 négociateurs sur 22 000 personnes. En gros, finalement, ces COP, c'est devenu des espèces de gros salons du climat.
Voilà, c'est les salons du climat et où chacun dit ce qu'il fait. C'est un espèce de grand rapport général. Et donc, je pense que ces COP servent à ça. Et en revanche, c'est aussi maintenant qu'il faut qu'on dessine un peu pour que tout le monde voit pourquoi en 2020, on doit vraiment revoir la copie.
Alors vous aimez bien dire qu'il faut regarder sur le long terme, horizon 2050, pour parvenir à cette fameuse neutralité carbone. Alors la neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus émettre de carbone du tout, mais qu'il faut être capable de compenser ce que l'on émet. En gros, en même temps, on a entendu juste avant votre interview dans cette émission qu'il y a des pans entiers en Afrique où la vie devient compliquée, où on approche les 50 degrés, où il y a des conséquences sur la santé. Donc attendre et viser le long terme, c'est compliqué.
Alors le long terme, c'est pas du tout pour attendre, c'est pour savoir où on va. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qu'on prend. Typiquement, on a besoin d'énergie tout de suite. Donc peut-être le plus simple, c'est d'avoir ce projet de centrale à charbon qu'on vous a proposé, ou même de faire de l'électricité avec du diesel. Peut-être qu'il faut qu'on mobilise les financements, les acteurs, pour que la centrale, ça soit plutôt du solaire, de l'éolien ou autre chose, hein, ou même du gaz si on ne peut pas faire autrement. Donc c'est ça, le long terme, c'est de dire, si on veut être là-bas, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de nouvelles centrales à charbon. Je travaille vraiment sur la fertilité des sols en agriculture. Je vois vraiment comment je peux faire pour le transport en commun. Et je ne fais pas juste une autoroute et je vois ce qui se passe. C'est ça, c'est les choses qu'on fait aujourd'hui et on les décide avec un bon critère. La deuxième chose, c'est que la science nous rattrape, elle nous pousse. Quand on a fait Kyoto ou même à Copenhague, on était encore dans l'idée, bon, c'est bien, il suffit que les pays développés fassent 80% de réduction des émissions et que les pays en développement plafonnent ou réduisent progressivement. Et puis, c'est plus vrai, parce qu'on voit que les impacts, ils sont beaucoup plus rapides que prévu. Et donc maintenant, c'est pour ça que net zéro, c'est important, parce que jamais on aurait imaginé qu'il fallait aller là. Et c'est pour ça qu'on a tenu à le mettre dans l'accord de Paris. C'est dire, c'est plus un peu mieux. C'est complètement différent ce qu'il faut arriver à faire.
Et c'est peut-être d'autant plus important pour des pays qui sont en train de créer leurs infrastructures. Je pense notamment aux pays africains.
Exactement. Et ça peut être une étoile polaire très importante pour les pays africains qui vont mettre tout leur système énergétique en place, leur système de transport très important avec l'immigration interne, mais les systèmes agricoles aussi. Il ne faut plus faire comme avant. D'avoir cette réflexion, et en plus, si c'est bien fait, c'est-à-dire que c'est une discussion public qui vraiment intègre la société. Et je crois que ça, c'est, cette vision-là, elle est très importante parce que sinon, on ne donne pas d'espoir. Parce qu'on dit, de toute façon, c'est fichu. Et je crois beaucoup à ces stratégies de long terme parce que justement, ce n'est pas fichu.
Oui, parce que vous dites qu'il faut faire les choses bien. On a vu récemment en France, avec ce mouvement des Gilets jaunes, que lorsque l'on fait les choses, on va dire, sans tenir compte de notamment la dimension sociale de la transition écologique, eh bien, les gens descendent dans la rue. Or, finalement, ce qui se passe en France, c'est une des conséquences, on peut dire, de l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'on dit que l'accord de Paris n'est pas contraignant. La façon dont on le rend contraignant, c'est qu'on crée des lois dans les parlements pour faire en sorte que ben justement ces contraintes climatiques arrivent dans la société, mais parfois ça bloque.
Bien sûr, alors moi je saute toujours sur ma chaise quand on dit que c'est pas contraignant. Il y a des choses qui sont très contraignantes, c'est par exemple de faire des lois climat, et en tout cas d'avoir des plans avec des mesures et de dire ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que tous les pays, depuis 3 ans, il y en a beaucoup qui ont fait des lois climat et d'ailleurs des stratégies de long terme. Alors évidemment, si ce n'est pas des lois qui sont d'abord acceptées et puis expliquées, et puis surtout l'accompagnement, parce que ça a un coût ces transitions. Et si ce n'est pas fait, ben, les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas anti-environnement. Les gens qui défilaient, en tout cas une grande partie des gens qui défilaient dans la rue. Et c'est ça, la séquence de politique, elle est cruciale si on veut faire cette grande transformation. Quand on veut faire un petit ajustement, tout va bien. Quand on veut faire une grande transformation, il faut une séquence qui soit comprise et qui soit surtout appropriée par tout le monde. Et dans le bon sens, on ne peut pas obliger les gens à ne plus rouler en voiture s'ils n'ont pas une alternative maintenant, pas dans 6 mois.
Mais donc là, on va rentrer dans les années qui viennent dans le dur.
Je pense qu'on va rentrer dans le dur. Ce qui est bien, ça veut dire que les gouvernements deviennent sérieux. Donc on va avoir certainement des allers-retours, hein, des mouvements de positifs et négatifs. Et je crois que il faut prendre conscience du rythme auquel on peut faire ces transformations et beaucoup de réflexion sur les effets redistributifs sur la justice sociale, puisque sinon on aura juste une protestation si c'est imposé d'en haut.
Merci Laurence Tobiana.
Merci.
Merci à François Pancheron pour la réalisation de cette émission et pour l'installation de ce studio. Et merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.